Oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Alors avant la pause musicale, nous parlions de précarité et nous parlions des luttes des enseignants-chercheurs. Alors aujourd'hui, nous allons réécouter justement une enseignante chercheuse qui est précaire et en grève en ce moment et qui travaille sur les précaires, mais sur les précaires et sur la façon dont les femmes sont précarisées dans l'emploi et en particulier au niveau européen. Donc, il sera question de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité des sexes au niveau des politiques publiques européennes. Et donc, pour cela, nous allons écouter Gwenaëlle Perrier. Et nous avons, pour commencer, nous lui avons demandé, justement, puisqu'elle est chercheuse, quel était le sujet de sa thèse et sur quoi elle travaillait en ce moment.
J'ai commencé une thèse il y a 4 ans sur la politique de l'Union européenne de lutte contre les inégalités hommes-femmes dans l'emploi. C'est une thèse de sciences politiques, en fait, parce que l'Union européenne a adopté une nouvelle méthode de la fameuse gender mainstreaming qui est très à la mode, qui consiste à intégrer dans toutes les politiques publiques un regard et une recherche de la, un regard sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc notamment dans l'emploi, et je voulais savoir comment ça se passait, non pas au niveau des institutions communautaires donc, qui ont lancé cette méthode, mais dans l'application concrète, dans les politiques au niveau local. Et du coup, j'ai choisi de regarder en Seine-Saint-Denis et à Berlin, comment dans des programmes pour l'emploi, donc financés par la région, le département, comment est-ce qu'on essaye en fait, de promouvoir la place des femmes dans le travail et comment on essaye de concrétiser cet objectif d'égalité hommes-femmes. Qu'est-ce qu'on entend précisément derrière et comment les acteurs de politique publique arrivent à intégrer ou non dans leur travail la promotion de l'égalité. Ça c'est le travail de thèse. Après, il y a donc les lectures sur la sociologie de l'emploi, de comment le thème finalement en est venu dans le milieu académique. Comment les sociologues, quel travail elles ont fait pour visibiliser tout simplement les inégalités. Et donc, le travail de la sociologie dans les années 60-70, ça a été d'expliquer ce que c'était que les inégalités dans l'emploi. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes continuaient, en dépit de la hausse du taux d'activité des femmes, à avoir des parcours différenciés. Enfin, il y a eu aussi tous les débats sur ce que c'était que le travail pour les hommes et pour les femmes, le travail salarié, le travail à la maison, l'implication des femmes dans la sphère domestique, qui leur demandait justement beaucoup de travail aussi, mais qui leur offrait pas de rémunération et donc d'indépendance. Donc les thèmes se sont diversifiés, développés. Il y a eu aussi comment les hommes et les femmes percevaient leur engagement professionnel, le syndicalisme aussi. Donc c'est un terrain de recherche assez développé finalement. Et aujourd'hui, c'est un thème pour les sociologues, les historiennes, les politologues, les économistes. Il y a par exemple des économistes qui essaient d'expliquer pourquoi aujourd'hui, en moyenne, donc, les femmes continuent de gagner 25% de moins que les hommes. Ça c'est oui pour les inégalités de salaire, ça peut donc être un thème de recherche pour les économistes, mais il y a aussi, par exemple pour les politologues, regarder comment les politiques publiques arrivent ou non à thématiser la question des inégalités de salaire. À partir de quand finalement les politiques publiques ont essayé de lancer des programmes d'insertion en faveur des femmes? Comment les politiques familiales aussi peuvent interférer avec la place des femmes dans l'emploi? Il y a un exemple qui est souvent cité par exemple pour la France. C'est la fameuse allocation parentale d'éducation. On a expliqué que finalement, c'était presque une incitation financière pour les femmes, notamment les femmes peu qualifiées, au retrait du marché du travail, parce que finalement, on leur offrait de l'argent pour élever leurs enfants. C'était pas le jackpot, mais c'était une petite somme qui, parfois, s'avérait être presque plus payante qu'un salaire de caissière à mi-temps mal payé. Finalement, donc, ces femmes, au moment de l'arrivée des enfants, peuvent se retirer du marché du travail, pas forcément parce que c'est leur vocation naturelle d'être maman à la maison, mais parce qu'elles font un choix stratégique financier. Elles décident donc finalement de bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, peut-être aussi parce que les emplois peu qualifiés leur permettent pas forcément de payer une assistante maternelle ou une place dans une halte garderie. Et donc, pas forcément, donc, comme je disais, par choix, elle se retire du marché du travail pendant 1 an, 2 ans, parfois plus, et peuvent avoir après des difficultés pour se réinsérer après une longue interruption de leur carrière professionnelle.
Justement, l'emploi féminin, c'est quand même en grande partie lié à un rapport à l'histoire, puisqu'il y a une évolution du salariat qui est aussi liée aux politiques publiques, mais aussi aux situations de crise économique ou de crise de guerre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'histoire du salariat ?
À partir des années 60, il y a un accès massif des femmes à l'emploi salarié, mais ça ne veut pas dire qu'avant les années 1960, en France, en Europe, les femmes étaient absentes du travail. Elles étaient soit présentes en milieu rural, au champ, tout simplement, ou mais pas seulement au champ, elles étaient aussi elles avaient des emplois dans l'industrie textile, par exemple, au 19e siècle. Il y a des travaux, des monographies qui ont été faites pour montrer comment, finalement, même les employeurs avaient parfois cherché à développer le travail féminin dans les périodes plutôt fastes de l'emploi, en soupçonnant, finalement, que les femmes étaient plus douées pour certains travaux parce qu'elles étaient plus habiles de leurs mains, etc., etc. Donc, en jouant finalement sur des représentations assez traditionnelles, mais aussi en exploitant des capacités qui avaient pu être développées dans la sphère domestique, puisque c'est vrai que les femmes ont aussi, de tout temps, entre guillemets, assumé une grande partie du travail domestique, de façon non rémunérée, donc, et ont peut-être effectivement développé certaines compétences, non pas de façon naturelle, mais de façon... parce que leur rôle social les a poussées vers là. Donc les femmes, elles ont travaillé au champ, elles ont travaillé dans l'industrie textile, mais elles n'avaient pas forcément la même forme d'emploi que les hommes. C'est-à-dire qu'elles faisaient un travail tout aussi essentiel aussi bien pour la famille que pour la société en général, mais pas forcément sous la forme d'un emploi dans la sphère publique, à l'extérieur de la maison. À la fin du 19e, début du 20e, il y a eu une accélération de l'industrialisation et tout, mais les femmes y ont aussi participé. C'est-à-dire qu'il y a eu ces fameux emplois dans l'industrie textile, il y a eu aussi au moment de la Première Guerre mondiale, les femmes qui ont remplacé, entre guillemets, les hommes qui étaient plus absents forcément puisqu'ils étaient à la guerre. Les femmes ont aussi été institutrices assez rapidement, à partir de la généralisation de l'éducation. Les femmes ont eu accès aux carrières publiques. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement Françoise Battagliola montre que même si le travail d'institutrice a été un travail très féminisé, c'était pas forcément les mêmes formes d'emploi et d'ascension professionnelle qui étaient valorisées. Les femmes étaient par exemple moins présentes dans les fonctions, dans les hauts postes de l'éducation nationale, elles étaient plus instites dans les écoles primaires, tout simplement, ou dans les collèges. Il y a eu aussi tout le développement de la profession d'infirmière, d'aide-soignante, qui a aussi été... Donc ça, c'était des carrières publiques qui ont été largement féminisées à partir des années 20, des années 30. Et en fait, ça, c'était pour dire que finalement, aujourd'hui, on considère que, peut-être plus émancipées ou je ne sais quoi que nos grands-mères, mais que souvent les grands-mères, elles ont aussi eu un emploi et qu'elles ont aussi contribué finalement à l'économie nationale. Et puis, la grosse rupture, c'est quand même les années 60, parce que finalement, il y a eu une massification des formes d'emploi salariés. C'est-à-dire que les femmes ont investi soit de nouveaux métiers, soit tout simplement... leur accès aux usines ou aux fonctions publiques, aux emplois publics, se sont massifiés avec l'essor économique des années 60. Je crois que c'est une des explications indéniables, c'est que tout simplement on a eu besoin de la main-d'œuvre féminine avec l'essor économique, les fameuses Trente Glorieuses, là, et donc on a fait appel à la main-d'œuvre féminine. Les historiennes ou les sociologues du travail contextualise aussi cette massification de l'emploi féminin en expliquant que c'est dans une période d'émancipation des femmes, de revendication à l'autonomie. Donc il y aurait eu peut-être rencontre entre des besoins économiques et des volontés individuelles de s'émanciper, de s'autonomiser par rapport au mari, au conjoint, de pouvoir s'émanciper aussi, de faire carrière, entre guillemets, dans le travail. Ça, c'est la... ça s'est mis en place dans les années 60. Et puis, alors ce qui est marrant, c'est que donc il y a eu finalement des acquis pour les femmes, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de femmes qui ont été actives, tout simplement, qui n'ont pas, qui sont sorties du rôle traditionnel de la femme et de la mère au foyer. En même temps, cette petite révolution, elle n'a pas gommé finalement les inégalités entre les hommes et les femmes. Et il y a eu insertion professionnelle, mais une insertion qui reste sexuée d'une certaine façon. Et c'est ce que montrent tous les travaux de sociologie aujourd'hui, qui mettent le doigt en fait sur la persistance de, alors soit de formes d'emploi spécifiques, soit de discrimination. Soit de trajectoires différenciées. Alors, je m'explique parce que c'est un peu jargonneux. Par exemple, on observe donc aujourd'hui, si les femmes sont autant salariées, enfin même plus salariées que les hommes, on regarde, j'ai pas les chiffres en tête, mais on remarque par exemple que la proportion de femmes actives est concentrée dans un emploi salarié. Il y a beaucoup moins de femmes, par exemple, qui travaillent en indépendante, soit petits commerçants, médecins, etc., soit activités agricoles indépendantes, etc. Les femmes, aujourd'hui, quand elles ont un emploi, elles sont plus sous la forme du salariat, donc une relation employeur-salarié. Les filles font des choix raisonnés et vont là où il y a aussi du travail pour elles, tout simplement, c'est-à-dire vers la fonction publique, les métiers d'institutrice, d'enseignante, vers les métiers d'infirmière. Finalement, elles investissent leur parcours scolaire en faisant un choix très, très rationnel pour être sûres de trouver un emploi. Parce qu'elles pensent qu'elles ont plus de chances d'en trouver là où il y a du travail, où la carrière est possible, que dans des métiers peut-être plus difficiles, plus discriminants. Je sais pas, moi... soit des métiers d'ingénieur, des métiers plus scientifiques, qui sont des métiers quand même plus occupés par les hommes encore. Même si les femmes ont quand même réussi à percer les fameux bastions masculins, c'est-à-dire qu'on trouve des femmes dans les écoles d'ingénieurs, qu'on trouve des femmes en agronomie, qu'on trouve des femmes, je le disais tout à l'heure, dans les métiers d'avocat, dans les métiers de journaliste. D'ailleurs, c'est maintenant des professions presque mixtes. Alors, ça c'est aussi le travail des sociologues, de montrer que les professions mixtes, c'est pas forcément des professions... où les hommes et les femmes sont à égalité. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans beaucoup de professions encore, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, ça c'est important de le dire, fameux phénomène de ségrégation verticale. C'est-à-dire que les chiffres ou les études plus fines, plus qualitatives ont montré que les femmes sont, en France par exemple, c'est 5%, je crois, des femmes qui sont, 5% des chefs d'entreprise qui sont des femmes. Dans la fonction publique, je crois qu'il y a quelques 3, 4 peut-être femmes qui sont préfètes en France. L'ENA, la voie royale pour accéder à l'administration publique, reste une voie encore beaucoup plus masculine. Donc on voit que les femmes, comment dire, ont fait leur trou, mais pas finalement, pas de façon aussi, pas de façon paritaire par rapport aux hommes. Mais on peut écouter des témoignages de journalistes, des témoignages de femmes dans les entreprises qui disent que finalement, elles n'arrivent pas forcément à soit se faire autant reconnaître, accéder au même poste que les hommes. Alors, les sociologues, elles ont essayé de s'interroger sur les raisons de cette persistance du fameux, ce qu'on appelle le plafond de verre, que d'autres appellent d'ailleurs le plancher collant, en disant que c'est pas tant un plafond de verre qu'un plancher collant qui fait que les femmes restent collées au niveau de base, entre guillemets, dans les métiers. Alors,
demain sera un autre jour. c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui.
Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, fuit qui le poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui.
Demain, j'arrête, c'est promis. C'est sûr, on vous l'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, ceci, demain, cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, demain, j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain. C'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise.
Oui, demain, toujours demain, mais aujourd'hui, il y a quand même des femmes qui arrivent à des postes à haute responsabilité. Et donc, nous avons demandé à Gwenaëlle Perrier, qui travaille sur les inégalités hommes-femmes et sur les luttes contre les discriminations au niveau de l'emploi en Europe, si justement l'arrivée de ces femmes à des hautes responsabilités changeait quelque chose. Écoutons Gwenaëlle.
Alors, le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y en a peu de femmes pour l'instant, justement, à des hautes fonctions. Quoique, par exemple, le métier de DRH est quand même un métier qui est en partie féminisé, notamment justement en raison des supposées qualités féminines de communication, etc. Alors, je suis pas spécialiste de la question, mais j'ai quand même. Enfin, il y a des exemples d'entreprises où effectivement. Certaines femmes, après avoir subi elles-mêmes les discriminations sexistes, qui en ont bavé d'une certaine façon pour arriver où elles en sont arrivées, certaines, oui, je peux pas vous citer d'exemples, etc., mais ça existe quand même, les femmes managers qui vont essayer de promouvoir l'accès des femmes aux fonctions supérieures. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder, c'est une chose qui, à mon avis, positive, la question est aussi de savoir ce que font ces femmes qui ont eu accès aux professions supérieures, à des bons salaires, à des formes de métiers valorisées, ce qu'elles font pour les autres femmes aussi. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très bien d'essayer de briser le plafond de verre, d'essayer de tirer des femmes vers les métiers de cadre sup, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément des femmes qui aient une politique particulièrement sociale vis-à-vis du reste de la population salariée féminine, enfin de leur entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand on va dans des débats féministes, parfois, ça c'est un point d'achoppement. C'est-à-dire que on voit des femmes cadre sup qui viennent expliquer comment leurs entreprises sont, comme on dit, family friendly. Elles sont devenues managers. Elles essaient de finalement de concrétiser leur idéal de conciliation vie familiale vie professionnelle. Elles essaient que les autres femmes cadres sup de leur entreprise aient des possibilités pour se décharger entre guillemets d'une partie de leur charge familiale en créant des crèches d'entreprise qui vont leur permettre de laisser leurs enfants jusqu'à 9h dans la boîte. Savoir si c'est une bonne chose d'ailleurs, c'est quand même une question. Elles essayent de valoriser des femmes quand il y a des postes qui se libèrent, d'employer plus de femmes. Mais des femmes, notamment des militantes syndicales, leur reprochent de ne s'occuper que de ces femmes-là, que des femmes, des managers, des businesswomen, etc. Il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut, il faut tirer les femmes vers le haut, il faut permettre aux femmes de faire des carrières si elles le souhaitent dans leur entreprise, dans la fonction publique, etc. Mais il faut s'intéresser à toutes les femmes, à mon avis. Quand on est féministe, on n'est pas juste féministe pour les meilleures, entre guillemets. À mon avis, si s'intéresser au féminisme, c'est s'intéresser aux questions d'inégalité homme-femme et aux questions, et c'est s'ouvrir sur la question d'inégalité en général. Je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf, entre guillemets. Enfin, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'engagement féministe. Je n'irai pas. J'ai mes convictions sur ce que ça devrait être, le féminisme. Ça devrait être une défense de toutes les femmes, une lutte contre les inégalités entre les sexes, qui ouvre sur les inégalités en général. Je pense qu'on a aussi besoin de femmes qui... On ne peut pas non plus être présent sur tous les terrains, d'une certaine façon, et je pense que c'est très bien qu'il y ait des femmes qui, dans leur entreprise, à leur niveau... Il y a aussi des femmes, par exemple, qui vont être des RH, qui n'auront pas forcément les moyens politique, de révolutionner le temps de travail, la politique salariale, etc. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit, enfin, qu'il y ait aussi beaucoup de femmes dans les syndicats, tout simplement. Et je pense que tout changera pas par les femmes, enfin, j'y crois pas du tout, ça, par les businesswomen managers dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes, il y a aussi bien sûr un rapport de force à créer entre classique entre guillemets entre employeurs et salariés. Il faut que les femmes elles soient syndiquées, il faut qu'elles soient sur le terrain social pour tout simplement défendre aussi les intérêts des femmes qui occupent des emplois qui n'arriveront jamais dans des positions, ou qui n'arriveront pas au moment, à un instant T, à des positions qui leur permettent, elles, de prendre des décisions pour la majorité. C'est-à-dire qu'il faut que, c'est tout simplement que, c'est aussi par l'action collective, le syndicalisme, que les conditions de travail et de vie de la majorité des femmes changera. Je pense qu'il y a, sur la question, pour venir à la question que tu posais au départ, je crois que ce qui existe aussi, ce sont les fameuses businesswomen qui ont bavé, entre guillemets, pour arriver où elles sont arrivées, et qui reproduisent des comportements masculins, entre guillemets, on est bien d'accord, que, et qui finalement sont dans une idéologie de la compétition, y arrivent celles qui sont bonnes, point, et qui ne cherchent pas forcément à se préoccuper de ces fameux problèmes sociaux, de quels horaires on met pour nos réunions. Finalement, si on fait une réunion qui commence à 6h, on va sûrement pénaliser des femmes, donc on va essayer de déplacer le temps des réunions. Il faut qu'on s'occupe de la question des gardes des enfants. Il y en a aussi, oui, qui n'y pensent, enfin, qui ne le font pas. Je maîtrise pas la question de près, mais j'ai quand même été à des réunions de féministes sur le travail, etc., où des femmes syndiquées, ou même des femmes businesswomen, dénonçaient le comportement d'autres femmes qui étaient dans des positions managériales considérer finalement, avec une idéologie super libérale, que c'est une question de volonté, de capacité, d'engagement personnel, point, et que si on veut, on peut, en gros, quoi. Mais pour les questions de changement profond du monde du travail, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que, s'intéresser donc aux questions des inégalités hommes-femmes, c'est, comme je disais tout à l'heure, constater des dysfonctionnements vraiment du monde du travail, dans les horaires, dans la place que prend le travail dans la vie. Et c'est là où, à mon avis, la lunette féministe, entre guillemets, elle ouvre aussi des horizons pour les hommes. Je pense que aujourd'hui, c'est aussi dans l'intérêt des hommes de prôner cette fameuse conciliation, si elle est bien faite, pour pouvoir avoir plus de temps pour soi, mais pas pour soi seulement, bien sûr, pour sa famille ou sa vie sentimentale, pour pouvoir faire, pour pouvoir trouver aussi d'autres formes d'engagement collectif que le travail, enfin parce que c'est aussi un engagement collectif, c'est pour pouvoir aller, je sais pas moi, faire de la flûte ou défendre l'environnement dans une association de verte, enfin pour pouvoir militer dans un parti politique. Et c'est se dire que finalement, les formes de développement du travail féminin, les formes d'emploi féminin, ils sont peut-être considérés comme atypiques aujourd'hui, mais ils devraient peut-être... Alors, ce qu'on emploie par emploi atypique, je ne pense pas que ça doive être généralisé, parce que c'est des formes d'emploi assez mauvaises, c'est nuisible, mais peut-être qu'on devrait finalement repenser les formes d'emploi atypiques, le CDI 40 heures, etc. Enfin, le CDI, c'est bien, mais la semaine de 40 heures qui se transforme en semaine de 55 heures parce qu'il faut être au top, il faut s'investir et tout, je pense que c'est souhaitable pour personne. Et ça, c'est... Enfin, moi, c'est ce qui m'a finalement peut-être le plus intéressé dans les études de genre et dans le militantisme féministe, c'est que c'est pas du tout la valorisation d'intérêts catégoriels ou je ne sais quoi. C'est à partir de situations d'un groupe, le groupe des femmes, qui n'est pas du tout un groupe homogène d'ailleurs, c'est réfléchir sur des dysfonctionnements, mais aussi un projet de transformation sociale. Et c'est exactement la même... Enfin, à mon avis, c'est exactement la même problématique sur l'engagement des femmes en politique, c'est-à-dire que on constate que les femmes ont peu accès à la politique. Et quand on commence à se demander pourquoi, ben on se rend compte que oui, la politique, c'est aussi un engagement un peu fou en termes d'investissement personnel, c'est des fonctionnements très masculins, avec de la cooptation, c'est du cumul de mandats qui fait que c'est un milieu très fermé, c'est du militantisme qui permet pas trop justement de concilier vie politique, enfin engagement politique et vie personnelle. Et c'est pour ça que le sujet de la parité est aussi... Enfin, on s'éloigne, mais... Que c'est aussi, c'est ça, enfin, à mon avis, l'analyse féministe et les revendications féministes, ça permet vraiment de penser une forme de transformation sociale. Et ça, c'est chouette, quoi.
Puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis.
Allez, quand on est à du monde, on fait de l'ouvrage. C'était donc Les Oreilles Loin du Front. Et ce soir, cette émission était réalisée avec de la main-d'œuvre sous-traitante, puisque Elisa et Raphaël ont apporté leur pierre à cette petite entreprise. En plus donc de la main-d'œuvre extérieure, on retrouvait le personnel statutaire, avec ce soir collé au plafond de verre les business women qui en ont bavé pour arriver au studio, Juliette et Aude, avec de son côté les pieds sur le plancher qui colle, celui qui a mangé son sirop de liège comme un cochon, du coup ça colle, c'était Cédric. Il y avait aussi Alex, il y aura bientôt Claudie et Claudia, puisque Antanane arrive. Ciao.